le magazine des Nations Unies.
Joseph Kabila pour le retrait progressif de la MONUSCO, la classe politique divisée sur le sujet. Le point dans un instant. La violence est toujours la violence à Béni dans le Nord Kivu. Les dernières tueries relancent la question de la protection des civils dans cette partie troublée du pays. Nous ferons le point également avec le commandant adjoint des forces de la MONUSCO. Et puis les secteurs privés de la santé et sa contribution au RDC, il en a été question cette semaine lors de la présentation d'une étude financée par la Banque mondiale, USAID et d'autres partenaires.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de MAGUN. L'actualité cette semaine a été sans doute dominée par le discours du président Joseph Kabila à la 63e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Dans son intervention, le chef de l'État a, entre autres points, réitéré le retrait progressif et substantiel de la MONUSCO. Nous vous proposons à ce sujet un extrait de son discours choisi par nos collègues de la radio des Nations Unies à New York.
20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale.
Des réactions ont été enregistrées à la suite de ce discours au sein de la classe politique, notamment la majorité présidentielle. Pour le porte-parole de cette plateforme, la RDC, à l'instar d'autres nations du monde, a le droit non seulement d'accepter la solidarité internationale, mais aussi de la refuser. Allusion faite à la demande du président Kabila de voir la MONUSCO amorcer son retrait du pays. On l'écoute.
Le chef de l'État, comme vous le savez vous-même, il a fait cette confirmation après que lui-même s'était retiré du processus électoral pour respecter la constitution de la République démocratique du Congo. Nous devons évoluer d'égal à égal et il n'y a personne qui doit assumer le destin du peuple congolais plus que nous-mêmes. Donc plus d'ingérence dans nos affaires intérieures et c'est dans cette perspective même que nous tenons à ce que les forces de la MONUSCO commencent à se retirer parce que sur le terrain, le résultat n'est pas du tout significatif et vous voyez vous-même par-ci par-là la dernière en date du côté de Beni où il y a des affres où il y a des tueries devant la barbe de la MONUSCO et nous ne pouvons pas comprendre que nous puissions encore garder plus de 20 000 hommes sur notre territoire, bien que ça soit une force multilatérale, mais je pense que le temps est révolu pour que les forces de l'ONU se retirent.
Côté opposition, Jean-Bertrand Iwanga, cadre et porte-parole de Ensemble, estime que la RDC a encore besoin de cette mission qui intervient dans beaucoup de domaines au profit des Congolais. Le porte-parole d'Ensemble a été joint par Honoré Missinga.
Il y a de vrais problèmes dans notre pays. Il n'a pas tous les moyens de pouvoir affirmer qu'il y a des élections parce que à Beni, on continue à égorger les gens. Il y a plus de 130 groupes armés dans notre pays. Il a manqué l'occasion pour dire adieu et dire que son pouvoir n'est pas en mesure de sécuriser les Congolais pour des élections apaisées. S'agissant de la MONUSCO, nous ne pouvons pas comprendre, il a déjà désigné un dauphin, que le problème de la MONUSCO le préoccupe. La MONUSCO doit encore nous aider dans ce pays. Cette mission des Nations Unies nous a rendu de grands services dans ce pays. Kagoma est tombé dernièrement. Ce n'est pas notre armée qui a pu évacuer seule. Le rebelle du M23, il a fallu la MONUSCO. La MONUSCO intervient dans beaucoup de choses. Nous devons être respectueux de cette structure des Nations Unies.
Autre actualité, c'est la présentation des résultats d'une étude sur la contribution du secteur privé à la santé en RDC. Étude financée par la Banque mondiale, USAID, et la Fondation Bill et Melinda Gates. C'était mardi à Kinshasa, au cours d'une cérémonie présidée par le vice-premier ministre et ministre des Transports, José Makila. Jean-Pierre Lali Coco pour le reportage.
Le premier pilier concerne le leadership et la bonne gouvernance. Les acteurs privés déplorent entre autres la méconnaissance et l'insuffisance de la réglementation de leur secteur, le manque de collaboration avec d'autres secteurs et les dangers représentés par la croissance incontrôlée des officines privées pour la santé de la population. D'autres piliers ont trait à l'accès aux médicaments et leur fabrication, l'accès au financement et la qualité des ressources humaines. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a reconnu l'importance du partenariat public-privé fondé sur l'unicité et les dialogues.
La nécessité justement de ne parler que d'un seul secteur de la santé et de ne pas opposer le privé et le public. Le secteur de la santé est composé d'un régulateur qui est donc l'autorité de l'État et d'autre part un prestataire, un partenaire privé au sens large.
Pour lui donc, cette étude balise ses nouveaux partenariats sociaux.
Et l'étude qui vient de vous être présentée balise un petit peu le partenariat, le nouveau, qui devrait exister entre les différents acteurs.
Notons que cette étude a été financée par l'USAID, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Union européenne, la Banque mondiale et bien d'autres partenaires.
L'actualité, c'est aussi la sécurité qui règne à Beni au Nord-Kivu. Les forces de la MONUSCO ont combattu aux côtés des FARDC les assaillants, auteurs de massacres d'au moins 18 personnes, dont des militaires à Kasinga et à Faïda. Nous sommes là au sud-est de la ville de Beni, c'était le week-end dernier, les empêchant ainsi de commettre des tueries à grande échelle. C'est la réaction du général Bernard Comint, commandant des forces de la MONUSCO. Je vous propose un extrait de l'interview qu'il a accordé à Jean-Pierre Elali, Ikoko.
L'analyse que nous avons faite maintenant montre que l'action qui a été menée par nos forces et par les forces militaires congolaises a permis d'éviter sans doute des drames plus importants à l'occasion de cette attaque de samedi soir. Très clairement, il semble que les assaillants avaient pour objectif d'entrer plus profondément peut-être dans la ville de Beni. La première attaque dont nous avons eu connaissance est une attaque à Kasinga, qui se trouve à l'est de Beni, à la sortie de Beni. Et à cette attaque, nous sommes intervenus immédiatement en soutien de nos partenaires militaires congolais dont la base était attaquée. C'est au cours de cette action que nous menions ensemble, après qu'on ait repoussé les assaillants, que nous avons compris qu'ils se déplaçaient vers Païda et que nous avons compris qu'il se passait aussi quelque chose à Païda. C'est la raison pour laquelle nos forces ont été immédiatement réorientées vers Païda, où nous sommes allés avec les militaires congolais. Et là, nous avons, dans une situation où il faisait nuit déjà, été confrontés à ces assaillants que nous avons repoussés et que les militaires congolais ont ensuite poursuivis dans les forêts, dans la jungle, où ils se sont cachés. Notre action sera d'autant plus efficace que nous aurons l'information nécessaire en temps voulu, dont certainement beaucoup de personnes civiles posent parce qu'ils voient des gens suspects se déplacer.
L'intégralité de cet entretien tout à l'heure dans un décryptage.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous le disions, les tueries de Beni le week-end dernier suscitent encore des questions sur la protection des civils dans cette partie troublée de la RDC. Qu'en est-il du rôle des casques bleus et qu'ont-ils fait pour prévenir et empêcher ces massacres? Le général Bernard Comint, commandant adjoint des forces de la MONUSCO, répond ici à Jean-Pierre Elali, Ikoko.
Général Bernard Comint, bonjour.
Bonjour monsieur.
Au moins 18 personnes ont été tuées et d'autres blessées en pleine ville de Beni ce week-end. Alors, ces tueries sont attribuées par certaines sources aux ADF. Est-ce que la MONUSCO peut confirmer ces tueries? Est-ce que vous en avez les bilans?
Oui, tout d'abord, je dois malheureusement confirmer qu'il y a eu de nombreuses personnes civiles et des militaires congolais qui ont été tués lors d'une attaque survenue samedi en fin de journée dans la zone sud-est de la ville de Beni. Le bilan tel que vous le citez correspond à ce que nous avons identifié avec des militaires congolais et malheureusement beaucoup aussi de civils qui ont péri dans cette attaque qui est la démonstration d'une grande lâcheté de la part de ceux qui ont commis cet acte inadmissible. Et donc je voudrais malheureusement à cette occasion dramatique présenter toute notre pensée et notre tristesse aux familles qui ont été endeuillées par ce qui est arrivé, mais également aux familles des militaires qui ont perdu la vie en défendant les populations.
Est-ce que vous avez pu identifier les assaillants?
L'identification précise des assaillants est une vraie difficulté. Malheureusement, nous savons que parfois ils se déguisent ou ils utilisent des tenues militaires aussi. Sur ces assaillants, nous n'avons pas aujourd'hui, je dirais, d'informations très précises, mais nous savons où ils ont frappé, ça c'est sûr.
Oui, général, comment expliquer que ce massacre ait lieu dans une ville où sont déployées les forces de la MONUSCO? Qu'avez-vous fait pour prévenir, voire même empêcher ces massacres?
Écoutez, je peux dire également que l'analyse que nous avons faite maintenant montre que l'action qui a été menée par nos forces et par les forces militaires congolaises a permis d'éviter sans doute des drames plus importants à l'occasion de cette attaque de samedi soir. Très clairement, il semble que les assaillants avaient pour objectif d'entrer plus profondément peut-être dans la ville de Beni, et que l'action que nous avons menée, d'abord, dans la région de Kasinga, où nous avons eu la première information sur une attaque contre une position militaire congolaise, et ensuite, lorsque nous avons compris que les assaillants attaquaient plus violemment Païda et cette région proche de Beni, nous avons immédiatement réorienté nos forces avec les militaires congolais pour pouvoir nous déplacer le plus vite possible dans la région de Païda où avait lieu cette deuxième attaque. La première attaque dont nous avons eu connaissance est une attaque à Kasinga qui se trouve à l'est de Beni, à la sortie de Beni. Et à cette attaque, nous sommes intervenus immédiatement en soutien de nos partenaires militaires congolais dont la base était attaquée. Et c'est au cours de cette action que nous menions ensemble, après qu'on ait repoussé les assaillants, que nous avons compris qu'ils se déplaçaient vers Païda et que nous avons compris qu'il se passait aussi quelque chose à Païda. Et c'est la raison pour laquelle nos forces ont été immédiatement réorientées vers Païda, où nous sommes allés avec les militaires congolais. Et là, nous avons, dans une situation où il faisait nuit déjà, été confrontés à ces assaillants que nous avons repoussés et que les militaires congolais ont ensuite poursuivis dans les forêts, dans la jungle, où ils se sont cachés. Donc nous avons, comme nous le faisons systématiquement, réagi le plus vite possible en fonction des informations que nous avions, en étroite coordination avec nos partenaires militaires congolais, pour protéger les civils.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous reprochent d'assister impuissants ou sans réagir face au massacre de populations, alors que l'une des missions de la MONUSCO est la protection des civils? Qu'est-ce que vous en dites?
Bien, je dis que ceux qui nous reprochent d'être impuissants, malheureusement, se trompent. Ceux qui nous reprochent de ne pas intervenir, malheureusement, se trompent. Nous avons, à de très nombreuses reprises, malheureusement à cause de la violence qui existe et à laquelle nous faisons face avec les forces de sécurité congolaises, nous avons systématiquement répondu et nous avons toujours déployé les forces aussi vite que nous avons eu l'information. Et je souhaite saisir à nouveau cette occasion pour dire que notre action sera d'autant plus efficace que nous aurons l'information nécessaire en temps voulu. Et je parle aussi de l'information dont certainement beaucoup de personnes civiles disposent parce qu'ils voient des gens suspects se déplacer. Ils voient des gens en uniforme militaire, mais ils ne sont pas certains que ce soit peut-être des soldats qu'ils connaissent dans cette zone. Je m'adresse à ceux qui nous écoutent pour leur dire que nous avons besoin que, sans hésiter, ils nous donnent les informations sur ce qui leur paraît suspect.
Vous avez dit tout à l'heure que les gens qui ont attaqué la population, ils se sont évanouis dans la nature, donc dans la forêt. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, au niveau de la MONUSCO, qu'il y ait droit de poursuite?
Mais il y a droit de poursuite et nos forces, actuellement, sont engagées. Nous avons des patrouilles qui travaillent dans cette zone. Je ne peux pas donner toutes les informations puisque cela relève de la confidentialité des opérations militaires. Je disais également que les militaires congolais poursuivis ces assaillants dans la forêt. Nous le faisons.
Oui, général Bernard Cummins, je vous remercie.
Merci, messieurs.
Masculinité positive, hein, c'est par là que nous ouvrons cette page. Mardi dernier, une trentaine de policiers et policières de la police nationale congolaise, PNC, ont pris part à une exposition photo montrant comment, dans la société suédoise, des hommes participent aux travaux ménagers aux côtés de leurs femmes. L'exposition a eu lieu à l'espace Bilembo à Kinshasa. La campagne dénommée Masculinité positive se poursuivra avec d'autres cibles. Elle est organisée par la section genre de la MONUSCO en partenariat avec l'ambassade des Suèdes en République démocratique du Congo. Madame Maria Akansson, ambassadrice de Suède, a elle-même participé à cet événement. L'objectif de la campagne, a-t-elle expliqué, est de susciter un débat sur le rôle des hommes et des femmes pour l'égalité entre les sexes. Pour la diplomate suédoise, l'égalité entre les sexes commence en famille. On ne peut pas avoir une société complètement égale si les pères et les mères ne partagent pas les responsabilités, a-t-elle déclaré. De l'égalité à la paix, il n'y a qu'un petit pas. Au moment où des éléments de la PNC étaient dans la campagne à l'espace Bilembo, des hommes et des femmes des médias de Kinshasa et des acteurs des droits de l'homme prenaient part dans les installations de la MONUSCO à Utex Africa à une formation sur la paix en prévision des prochaines élections. Une formation organisée en marge de la Journée internationale de la paix le 21 septembre. C'était une initiative de la MONUSCO et de l'Association des journalistes congolais pour la paix, en collaboration avec l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, et le partenariat des agences onusiennes. Le droit à la paix, à 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, importance de l'implication des femmes dans le processus électoral, défis et perspectives, aussi la régulation des médias en RDC et l'apport des médias comme acteurs de paix ont été parmi les thèmes sur lesquels les débats se sont focalisés. Enfin, une campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida, c'est Kananga au Kasaï Central. Cette campagne a été lancée le lundi 24 septembre 2018 par le programme multisectoriel de lutte contre le Sida, PNMLS, avec l'appui du programme des Nations Unies pour la population, UNFPA. L'activité s'inscrit dans le cadre d'atteinte de l'un des objectifs de développement durable, mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La Déclaration universelle des droits de l'homme totalise le 10 décembre prochain ses 70 ans. En prélude de cet anniversaire, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a lancé une campagne de sensibilisation de ce texte encore d'actualité. Abdelaziz Thioy, directeur du Bureau conjoint, revient sur cette campagne, les grandes lignes de la Déclaration universelle ainsi que sur son application en RDC. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Abdelaziz Thioy, bonjour.
Bonjour Elali.
Le monde entier célèbre le 10 décembre 2018 le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et vous lancez une campagne de vulgarisation de cette déclaration. Pourquoi cette campagne en ce moment?
La célébration se déroule depuis le début de l'année ou au moins depuis quelques mois. En ce qui nous concerne, la célébration a commencé quand même depuis quelques semaines. Vous avez certainement suivi que nous avons été invités par l'ambassade de Suisse à la cérémonie de lancement, à l'occasion de laquelle un film a été diffusé qui s'appelle L'Ordre Divin et que j'invite beaucoup de gens à voir. C'est un film qui est assez illustratif de l'essentiel des droits qui sont proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, concernant la célébration proprement dite, 70 ans, ce n'est pas 70 jours, c'est ce que je voulais d'abord dire, ou 70 mois, c'est 70 ans. C'est plus qu'un demi-siècle. Donc il est important, c'est ce qui fait de cet anniversaire un anniversaire spécial. C'est un texte certes qui n'est pas contraignant, mais qui a résisté et qui continue à résister à l'épreuve du temps et qui préfigure de manière admirable le futur des droits de l'homme. Il a permis aux différents organes de l'ONU de développer leur action de protection et tant sa formulation que sa logique ont été reprises par les traités internationaux qui ont ainsi consacré sa centralité. Je devrais rappeler que beaucoup de constitutions, pour ne pas dire toutes les constitutions en général, comprennent une partie consacrée à la proclamation de droits, qui pour beaucoup sont tirées des droits reconnus et proclamés dans la Déclaration universelle, et ainsi les conventions qui, de façon spécifique, ont été adoptées, ratifiées par de nombreux États et qui portent sur les différentes catégories de droits.
Parlons justement de cette campagne. À part le film auquel vous avez fait allusion, comment les bureaux conjoints comptent-ils l'organiser, cette campagne?
La campagne que nous avons déjà lancée, j'insiste là-dessus, consiste d'inscrire une série d'activités dans le cadre de la célébration. Toutes les activités de formation avec la société civile, les activités de formation avec les médias, des activités de vulgarisation des dispositions de la Convention. Je voudrais rappeler que la Convention, elle est traduite en plusieurs langues, pratiquement toutes les langues du Congo. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde de connaître le contenu de la Déclaration, qui est, je pense, un instrument important, comme je l'ai dit, pas contraignant, mais qui guide l'essentiel de ce que nous avons en termes de droits, de devoirs et libertés octroyées, consacrées dans les lois et règlements de nos différents pays. La célébration va culminer jusqu'au 10 décembre, ou peut-être au-delà, parce que je voudrais rappeler qu'il y a des célébrations majeures qui concernent la journée internationale pour les personnes vivant avec le VIH, les 16 jours d'activisme sur les violences sexuelles, la journée sur les droits de l'enfant. Il y a beaucoup de célébrations qui portent sur des thématiques droits de l'homme et toutes ces thématiques s'inscrivent dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, nous allons, au moins pour être précis, avec le soutien de l'ambassade de France, nous avons plus ou moins un accord pour utiliser partout sur l'ensemble des territoires où il y a des centres culturels français.
Vous avez parlé de cette déclaration à laquelle beaucoup de constitutions à travers le monde entier s'inspirent. Quelles sont les grandes lignes de cette déclaration universelle des droits de l'homme?
Je devrais dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme reprend pour beaucoup des éléments, des catégories de droits qui relèvent de la relation entre l'individu et les structures du pouvoir, par exemple, en particulier l'État. La déclaration revient sur les limites dans lesquelles l'État peut exercer son pouvoir et exige en même temps que l'État, de l'État qu'il prenne des mesures positives. Je caricature en disant cela, parce que entre la proclamation de cet outil, de cet instrument, et les conventions qui ont été produites et ratifiées par les États et qui sont entrées en vigueur, on a eu des mesures positives qui s'inspirent de ces droits qui sont proclamés et qu'il s'agit pour l'État de prendre des mesures positives pour garantir un environnement, créer un environnement qui permette aux individus de pouvoir jouir de leurs droits en tant qu'être humain. C'est le respect de la dignité humaine.
Et à part le caractère non contraignant de cette déclaration universelle des droits de l'homme, est-ce qu'il y a aussi des faiblesses qu'on a pu remarquer dans cette déclaration ou même dans son application?
Oui, comme tout outil, on peut y retrouver des éléments de faiblesse. Parce qu'en réalité, vous avez certains pays, certains États, notamment certains pays tels que l'Arabie Saoudite, en réalité, qui considéraient que certains principes ou des droits qui sont plus ou moins conformes à la religion musulmane n'avaient pas été suffisamment reflétés. Ça, c'est des querelles plus ou moins philosophiques, idéologiques. Mm-hmm. Ou d'autres pays qui plus ou moins avaient hésité à réellement ratifier, qui hésitent encore à ratifier cette convention, simplement parce que considérant qu'il faut créer de l'espace, un certain relativisme. Alors qu'en réalité, il s'agit de proclamations de droits universels qui sont inhérents à l'individu. Le contexte qui a présidé plus ou moins à l'élaboration de la Déclaration universelle, la période d'après-guerre, et l'objectif des nations libres en ce moment, c'était beaucoup plus de créer les conditions pour que les souffrances indicibles que certains peuples ont vécues, que ces souffrances-là, que les générations à venir puissent être préservées de ces souffrances-là. Mmh. Donc, encore une fois, la Déclaration universelle s'inscrit dans cette ambition-là, de prévenir aux générations futures ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aux générations qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ou la Première Guerre mondiale, ou d'autres types de souffrances. Donc, ça nous interpelle dans la période actuelle. Nous sommes dans une période qui est marquée par des crises multiformes qui dégénèrent en violence. Si on le ramène à l'échelle du Congo, les conflits armés.
Voilà. Un instant, on va y arriver. Selon plusieurs rapports qui ont été publiés par le Haut Commissaire aux droits de l'homme, les droits de l'homme sont fréquemment bafoués, galvaudés même dans plusieurs pays, dont la RDC. Quelle est la pertinence de cet outil adopté le 10 décembre 1948 aujourd'hui dans notre pays? Est-ce que vous pensez que cette déclaration est vraiment appliquée en République démocratique du Congo?
Oui, en République démocratique du Congo, je ne peux pas dire que ce n'est pas appliqué, pour la raison bonne et simple que la RDC a ratifié pratiquement toutes les conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Et pour toutes ces conventions, sont relatives à des aspects de droit qui sont des droits qui sont proclamés dans la Déclaration universelle. Donc, il y a une volonté de la RDC et de ses autorités de mettre en place, de créer un cadre qui permette aux individus, aux Congolais et à tous les individus présents sur le territoire congolais de pouvoir jouir pleinement des droits qui sont reconnus, proclamés dans la Déclaration universelle, mais plus tard reconnus et transposés dans des conventions qui ont été ratifiées et par la constitution de la RDC. Donc, ouais. Maintenant, il y a des difficultés, c'est ce que j'ai dit. Le contexte du pays crée des difficultés. Pour les droits civils et politiques, je l'ai mentionné, vous avez une situation de conflit dans l'est du pays et dans certaines provinces, Maniema et autres, qui aujourd'hui montrent qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre de la Convention. À partir du moment où la paix et la stabilité sont menacées par des actes de violence du fait de groupes de gens qui sont plus ou moins armés, automatiquement, il y a des opérations militaires, des opérations de sécurisation. Alors, des opérations de sécurisation qui, quelquefois, le comportement de certains éléments des forces de sécurité et défense n'est pas réellement conforme à ce qu'on pourrait attendre réellement de personnes réellement qui ont la responsabilité de protéger les personnes et leurs biens. Donc, quelque part, les conventions et la déclaration ne sont pas, les droits reconnus ne sont pas respectés parce que des groupes armés. Donc, quelque part, les individus, le cadre de jouissance les conditions, les circonstances et l'environnement qui peut favoriser la jouissance pleine et effective des droits qui sont reconnus, c'est l'environnement n'est pas réellement stable ou n'est pas favorable du fait réellement du désordre, la perturbation que connaît cet environnement-là du fait du conflit qui existe à l'Est et dans d'autres provinces, mais aussi du fait aussi de l'action tendant réellement à limiter la possibilité pour certains groupes de manifester, qui est un droit également reconnu par la Constitution, mais qui est également reconnu par la Déclaration et les conventions qui s'en suivent.
Monsieur le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ici en RDC, Radio Capivora, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Kilizane. En français, entendons-nous, c'est un projet du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, et de la Commission diocésaine Justice et Paix, lancée dans la province du Tanganyika pour favoriser la cohabitation entre Bantous et Twa. Ce projet consiste à organiser des actions de sensibilisation des masses dans un contexte où cette province se remet difficilement des conflits entre les deux communautés. En marge de la Journée internationale de la paix, un match de football a été organisé à Miketo, l'un des groupements touchés par ces conflits. C'était le 21 septembre dernier. À ce stade, les initiateurs du projet se sont exprimés. Le Maguen revient sur ce dossier d'Expedi Mambamoubi.
Sur le terrain de football de Miketo, deux équipes s'affrontent, le tout dans un fair play. Ces deux équipes sont toutes mixtes, c'est-à-dire composées de joueurs d'origine Twa et de joueurs d'origine Bantou. Madame Vanessa Saint-Val, spécialiste jeune, paix et sécurité à UNFPA, explique.
UNFPA fournit un appui technique et financier à la CDJP dans le cadre du projet Sauver des vies et promouvoir la paix au Tanganyika. L'activité d'aujourd'hui a permis de renforcer la cohabitation pacifique et le vivre ensemble entre les Twa et Bantous de Miketo et Kagoba et dans les environs.
L'intervention du Fonds des Nations Unies pour la population consiste à appuyer les efforts de la CDJP pour sauver des vies. Avec les jeunes, par exemple, la CDJP a mis en place des clubs de solidarité et de paix.
Avec le partenariat des UNFPA, la CDJP a formé plusieurs jeunes sur le leadership et la cohésion sociale. De là, sept clubs de solidarité et de paix ont été installés sur les axes suivants. Loani Kakambu, Kalemi Katanika, Taba Kongo, Miketo, Kagoba, Sangomalumbi, Lukwangulo Kikumbe.
Pour revenir à l'intervention de l'UNFPA, je vous prie d'écouter les motivations exprimées par le chef de bureau Zone Sud-Est RDC, Dr Mayate Zulua.
Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet appuyé par l'UNFPA et mise en œuvre par la commission Justice et Paix. Projet appelé Tusikilizane. Ce projet a comme ambition de sauver des vies et contribuer à la paix et à la sécurité dans la province de Tanganyika. À vous les jeunes, loin de vous rappeler les événements tragiques qui ont déchiré vos communautés et ont causé de nombreuses pertes tant sur le plan humain que sur le plan matériel, lequel constitue un frein au développement, je vous félicite d'avoir actuellement opté pour le dialogue et de vivre ensemble dans le respect, la tolérance, la solidarité et l'amour du prochain.
Kalemi, Expedi Mwambamoubi, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Et la question de ce jour a trait aux conditions d'anciens contractants UNOPS campant devant les installations de la MONUSCO à Goma. Elle a été posée lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies du 19 septembre dernier.
Papi Okito, éditeur du journal Écho d'Opinion. Ma question, je l'adresse à M. Abdelaziz. Hier, M. Aziz, vous étiez hier à Goma. Vous parlez chaque fois des droits de l'homme et surtout des violations des droits de l'homme par les gouvernements et autres. Mais vous-même, vous savez bien que la MONUSCO aussi est en train de violer les droits de l'homme. D'autant plus qu'il y a des ACS, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 65 jours, qui sont sous la bâche avec leurs enfants, qui ne vont même plus à l'école et qui sont là. Aujourd'hui même, vous avez ordonné de les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire de les refouler de la porte de la MONUSCO. Est-ce que vraiment, vous ne pouvez pas trouver une solution dans le cadre des droits de l'homme? Merci.
Donc je voudrais juste dire ceci, c'est une question que je pense Charles est mieux placé que moi. Charles porte la parole de la mission et pas moi. Moi je représente le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Mais je dirais juste simplement, à ma connaissance, il s'agit d'un conflit de travail. Et comme conflit de travail, le conflit de travail est réglé par par les règlements qui ici, s'il s'agissait d'une institution nationale, ce serait peut-être les règles qui régissent les contrats de travail, le droit du travail en général. Il faut qu'on fasse un peu attention. C'est une situation très très sensible à laquelle, sur laquelle je n'ai pas beaucoup d'éléments, que j'essaie je suis d'un peu loin, même si je fais des plaidoyers dans le cadre général. Mais je pense que Charles est beaucoup mieux placé que moi pour répondre à cette question-là.
Pour répondre à Papi Okito, il faut dire que au niveau de la MONUSCO, nous sommes nous préoccupés d'ailleurs de la présence des enfants parmi ces anciens contractants individuels de UNOPS mis à la disposition de la MONUSCO, bien entendu, et qui manifestent, qui campent depuis effectivement quelques temps devant les bureaux donc de la MONUSCO au centre-ville. Nous condamnons bien entendu l'utilisation de ces enfants dans un tel mouvement, et je peux vous assurer, Monsieur Papi Okito, que les responsables de la MONUSCO suivent de très près ce dossier, et avec les autorités congolaises sur place, au niveau provincial, ils tentent donc de trouver des solutions. Donc quand ces solutions seront trouvées, nous reviendrons à vous.
La minute humanitaire.
Jean-Pierre Lally, bonjour et bienvenue dans la minute humanitaire. Alors comme première question, dites-nous, qu'est-ce qu'ils font les humanitaires?
Merci Tina. Il est d'abord important de connaître qui sont les humanitaires. Les humanitaires, ce sont donc des organisations à but non lucratif, c'est-à-dire qui ne cherchent pas les gains ni les profits dans leur travail. On appelle aussi humanitaires les personnes travaillant pour les comptes des organisations humanitaires. La mission des humanitaires, c'est d'aller au secours et de porter assistance aux personnes en difficulté. Souvent, c'est des personnes victimes de catastrophes, des conflits ou des situations qui mettent leur vie en danger. Face à l'urgence, la mission des humanitaires est de protéger la vie, d'alléger les souffrances humaines et de veiller au respect des êtres humains.
Et quels sont les éléments qui guident l'action des humanitaires?
Puisque les humanitaires sont souvent confrontés à des situations complexes et à des décisions difficiles à prendre, leur travail s'inspire des quatre principes: humanisme, neutralité, impartialité et indépendance.
Si l'humanisme fait partie des principes des humanitaires, pourquoi n'assistent-ils pas tous ceux qui vivent dans des conditions difficiles?
Voilà, c'est bien dit, Tina. L'aide humanitaire est distribuée uniquement selon les besoins, les ressources et les capacités disponibles. L'aide est distribuée sans aucune distinction. Si certaines personnes ne sont pas encore assistées, cela signifie que les humanitaires se concentrent sur le plus vulnérable et que les ressources sont insuffisantes même pour ceux dont les besoins. Par exemple, dans une situation de crise, les humanitaires vont d'abord secourir en priorité les femmes et les enfants, les blessés graves, avant de s'occuper des autres.
Merci Jean-Pierre Lally, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de la Minute Humanitaire.
Merci beaucoup Tina.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Le 1er octobre, double événement, c'est la journée internationale pour les personnes âgées et journée internationale de la musique. Le 2 octobre, c'est la journée internationale de la non-violence. Le 5 octobre, journée mondiale des enseignants. Et voilà, c'est déjà la fin du magazine des Nations Unies. On vous dit merci de nous avoir suivis. Moi, c'est Tina Salama. C'est toujours un plaisir de vous présenter ce magazine. À la mise en onde, Patrick Kiasongwa. À la coordination, reportage et réalisation, Jean-Pierre Lally Coco. Au reportage également, Honoré Missenga. Sous la supervision de Martin Sibujangwe. Merci et à très bientôt sur Radio Capi. Ciao.